Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 9h09. Nous sommes en direct du speed dating d'Arkéa 1. On est ravis d'être avec vous. On est le 13 septembre et c'est toujours après la rencontre des entreprises de France au MEDEF, la rentrée de notre grille de radio avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. En direct de la Maison de la Chimie.
Voilà, Maison de la Chimie. On a déporté notre studio, bien évidemment. Vous nous écoutez, on est très heureux sur la question cruciale du logement. On va parler, bien sûr, d'immobilier et de logement plus largement avec Julien Paul qui est avec nous, directeur général d'Habitat Réuni. Bonjour Julien Paul.
Bonjour messieurs.
Merci d'être avec nous. Comme ça, spontanément, le ressenti, le feeling. On est dans une circonstance ou dans un contexte un peu particulier, un contexte de crise multifactorielle, à la fois conjoncturelle, à la fois structurelle. Il est vrai que moi, depuis 30 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, entre les taux d'intérêt qui ont absolument flambé, un pouvoir d'achat qui s'est considérablement dégradé, des leviers en matière de logement qui sont, on peut le dire, en panne, avec des régions, par exemple, en construction neuve, qui accusent une régression d'environ 40%, ce qui est considérable. 12% des étudiants français vont renoncer à leurs études parce qu'ils ne se trouvent pas de logement. C'est un désespoir pour les parents. 17% des jeunes actifs ne signeront pas leur contrat à durée indéterminée dans les grandes métropoles parce qu'ils ne trouvent pas de logement. En même temps, et c'est l'effet ciseau, nous avons des propriétaires bailleurs, Julien Paul, qui se posent la question de savoir s'ils vont continuer à louer. Parce qu'ils se sentent matraqués fiscalement, ils se sentent sous une inflation normative jamais connue. On a l'impression que si on avait voulu préparer un choc social, on ne s'y serait pas pris autrement. On a posé la question d'ailleurs au ministre qui vous a précédé sur ce plateau. Le professionnel que vous êtes, comment vous analysez cette situation dont on parle aujourd'hui au speed dating d'Arkéa ?
Alors pour le professionnel que je suis, je regarde forcément la situation actuelle sous le prisme du bailleur social que je suis. Et qui dit bailleur social dit responsable d'une part d'intérêt général qui nous est confié et du rôle cohésif. En matière donc de cohésion sociale que nous tenons. Donc forcément, quand vous exposez, et ce de façon non exhaustive, mais parfaitement explicite dans le quotidien des Françaises et des Français, ce que veut dire la crise du logement, pour un acteur comme nous, évidemment, ça nous percute de plein fouet. Quand on est dans des moments comme cela, la priorité, c'est de garder le cap. La priorité, c'est de ne pas lâcher la barre d'être au clair sur notre mission, ce qui nous meut, de challenger, si cela était encore possible, mais ça l'est, les compétences, les décisions, la justesse des investissements, les expertises juridiques qui permettent de lever tel ou tel obstacle, et bien sûr, la qualité du dialogue constant avec les décideurs économiques, avec les élus locaux, avec les territoires, parce que c'est dans la micro-réponse que se trouve la solution.
C'est ce que dit le ministre du Logement, il dit « nous allons renforcer et mettre en place une boîte à outils pour que les collectivités locales puisse avoir cette compétence. Je lui ai posé la question de savoir s'ils allaient y associer les recettes, parce que ce n'est pas le tout de transférer une compétence. La réponse, c'est oui, on attendra les actes. Vous êtes un bailleur social, et les chiffres des bailleurs sociaux aujourd'hui ne sont pas bons en termes de production de logements sociaux, mais ça, vous le savez déjà. On en parlera au congrès de l'USH, où vous serez certainement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un mécanisme, politique. Alors je ne vais pas revenir sur la RLS et sur ces sujets, mais enfin, on a l'impression, parfois, d'un discours qui n'est pas toujours cohérent de l'exécutif vis-à-vis du logement social. À la fois, il défend l'idée du logement social, et Patrice Vergriete l'a clairement annoncé, il y est très attaché, et en même temps, on a l'impression que les bailleurs sociaux sont un peu la portion congrue d'une politique du logement sacrifiée. Alors, forcément, c'est un terme un peu de journalisme, mais sacrifiée sur l'autel du budget. Et on a l'impression que, in fine, c'est toujours Bercy qui tranchera. Alors, je sais que vous avez un devoir de réserve dans votre fonction, mais quelle analyse vous faites de cela? en sachant que dans le même temps, Julien Paul, on vous demande de loger les Français avec des loyers modérés, avec, et c'est le but du logement social, un logement pour tous et un logement digne et décent. Et en même temps, Julien Paul, on ne vous donne pas forcément toujours les moyens de le faire. Vous devez résoudre des équations difficiles à vivre quand même.
Absolument. C'est la première fois, je crois, que le logement social ne peut pas jouer son rôle contracyclique.
Merci de le dire.
C'est quand même surprenant. C'est-à-dire qu'on a
un
faisceau d'éléments qui s'amoncellent dans un même espace-temps, qui est, pour la profondeur historique de champ dont je suis capable, je crois, assez unique, mais il me semble que c'est une analyse partagée. Sur les aspects, sans vouloir faire de politique, le coût du logement dans le budget de l'État, on le connaît depuis juste avant les dernières élections présidentielles, puisque la France s'était engagée auprès de l'Europe à ce que la part logement ne pèse pas plus d'1,4 dans le PIB. C'était la trajectoire annoncée auprès de la Commission européenne. Il y avait d'ailleurs les retraites aussi dedans, pour précision. Donc on le sait, ça. Que les pouvoirs publics nous demandent de faire mieux dans un moment où on sait que l'argent public va être de plus en plus rare. La question de la sobriété ne touche pas uniquement la question du climat. La question, c'est comment aujourd'hui on est capable d'efficience collective pour que les marges de manœuvre budgétaires en matière d'argent public soient positionnées au juste endroit pour faire les effets leviers dont la société française a besoin. Et ça repose sur la qualité de l'expertise métier, ça repose sur la qualité du dialogue entre les instances représentatives des différents mouvements qui accompagnent l'immobilier notamment, mais il n'y a pas que l'immobilier qui est touché, hein, et les pouvoirs publics. Donc nous, on assume nos responsabilités, on dit ce qu'il en est, on dit ce qu'on ne peut pas faire. Vous disiez que notre responsabilité est de loger. Vous avez absolument raison. Moi, j'ai envie d'en vous en partager une autre. C'est de garantir l'habitabilité. Et quand j'utilise ce second terme, je parle des événements climatiques qui ne vont cesser de croître en force et en puissance.
Et la rénovation énergétique, bien sûr.
Mais la rénovation énergétique, ça parle d'atténuation, oui, des chaleurs, enfin des chaleurs, du réchauffement climatique. Oui. Moi, j'ai envie de vous ajouter un terme qui est l'adaptation. Parce que quand on va être confronté de plein fouet, enfin, on sort d'une période de canicule, mais... ces périodes ne vont cesser de croître. Regardez les enjeux de structure qu'il y a sur de plus en plus de patrimoine immobilier avec la question des rétractions argileuses qui viennent fragiliser structurellement le bâti individuel et collectif. Regardez la façon dont le secteur de l'assurance est aujourd'hui en train de se désengager.
Très
moi,
juste.
Je, en tant que bailleur social, je peux vous dire que la PNO a été multipliée par 3 ou 4. Vous ajoutez à ça le livret A, vous ajoutez à ça les taxes foncières qui ont pris plus de 10% en 2 ans, vous ajoutez à ça, on peut le comprendre en matière de pouvoir d'achat, le plafonnement des loyers. Vous voyez ?
On est d'accord.
Tout ceci,
on est d'accord. Donc on a l'impression que tout ça est fait pour qu'à un moment donné, votre mission ne puisse plus s'exercer normalement, comme vous le souhaitez.
Ou en tout cas avec des contraintes croissantes.
C'est clair. C'est clair.
Qui oblige à se doter de référentiels décisionnels que moi, j'espère de plus en plus partager. C'est probablement sur cet aspect-là qu'il y a encore beaucoup de travail.
Bien sûr.
Pour que l'investissement soit au bon moment, au bon endroit, sur les bons publics.
C'est ce que dit
la ORIF. Je ne
sais pas si vous êtes adhérent à la ORIF, mais la ORIF porte ce discours, bien évidemment, sur le sujet. Fabrice, vous voulez poser une question ?
Oui, justement, on a entendu le ministre Patrice Vergriete il y a quelques minutes qui insistait sur scène comme à ce micro sur la nécessité de la décentralisation. On ne construit pas des logements à Paris comme à Vesoul, comme à Biarritz, et on a besoin de cette granularité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, c'est l'ADN du groupe que je représente.
C'est du bon sens. Hein,
c'est du bon sens, mais c'est pas toujours mis en œuvre. Pardon de le dire sans vouloir être taquin. Il se trouve qu'Habitat Réuni, c'est un groupe HLM national, que donc on est à faire vivre la question du territoire et la question du national. On est donc un groupe national coopératif et on aime à se dire décentralisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos associés, nos 36 associés, 180 000 logements, représentatifs des 4 familles du logement social. À ma connaissance, on est le seul acteur de la place à accueillir des OPH, des ESH, des COP et des SEM. Eh bien, aujourd'hui, on sait que la valeur ajoutée, elle se crée sur les territoires. Donc la question du national, c'est quels moyens que ce soit des expertises métiers, que ce soit de l'ingénierie financière ou juridique, etc., etc. Quels moyens on est capable de mettre à disposition de nos associés pour qu'ils soient plus forts sur leur territoire et qu'ils soient justement en capacité de répondre à des besoins de plus en plus complexes, localisés, face auxquels ils pourraient être en difficulté eu égard à leur taille, leur histoire, les compétences disponibles, etc. Donc de toute façon, la réponse ne se trouvera que dans la proximité. À ceci près qu'il est aussi indispensable, j'entends notamment par là la question de l'accompagnement des différentes transitions, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un territoire plus lésé qu'un autre. Donc la question des politiques publiques nationales, la question de la cohérence globale doit aller de pair pour que, si ce n'est l'égalité, en tout cas l'équité, soit de mise pour répondre à l'ensemble des besoins, surtout quand on sait qu'une partie de la réponse est permise, même si c'est dans une mesure de plus en plus faible, grâce à l'argent public, en tout cas pour ce qui est du modèle des bailleurs sociaux, puisque certes, le FNAP est en train petit à petit de perdre en force de frappe, pour ne pas dire plus, mais les modèles de défiscalisation qui portent le modèle HLM restent aujourd'hui extrêmement efficaces, même si... Pour rester attentif.
Merci beaucoup Julien Paul. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Habitat Réuni. Je gage, mon cher Julien, que vous reviendrez souvent sur notre plateau. J'aime beaucoup votre façon d'aborder les choses. J'aurais aimé que vous soyez peut-être un peu plus offensif sur certains sujets, mais je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de préoccupations en ce moment. En tout cas, on se retrouvera certainement à Nantes, au congrès de l'Union sociale pour l'habitat.
Avec plaisir.
Je rappelais tout à l'heure que vous avez prononcé le mot de PNO, juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas.
Pardon.
Propriétaire non occupant. Voilà, tout simplement. Vous avez vu flamber les coûts de la PNO, c'est-à-dire le coût de l'assurance du propriétaire non occupant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le propriétaire qui est responsable, les amis, en cas, effectivement, les défaillances sont en complément du locataire. Ça s'appelle le propriétaire non occupant. Merci beaucoup, Julien Paul, d'être passé sur notre plateau. Et on continue toujours avec Fabrice sur ici, au speed dating d'Arkea. Il est 9h21.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.